Bonsoir mes amis, mon nom c'est Rabin, puis je suis un alcoolique. Encore une fois, puis surtout ce soir, je tiens absolument à dire que si je suis ici, c'est uniquement parce que je suis un alcoolique. Je prétends pas détenir la vérité de quelque façon que ce soit. C'est ma compréhension des étapes. Et chacun peut avoir sa propre compréhension des étapes. Il appartient à chacun d'entre nous autres de vivre tout simplement. Puis de vivre en s'inspirant de ces étapes-là. Alors, je suis ici pourquoi? Parce que je suis un alcoolique, parce que j'ai besoin de faire un meeting, parce que j'ai besoin de parler des étapes. Parce que chaque fois que j'en parle, les étapes font tranquillement plus partie de ma vie. Puis c'est de ça qu'on va commencer à parler ce soir. Ce soir, on commence un dernier bloc. Un bloc de trois conférences. Et notre dernier bloc, qui porte sur quoi? Si on veut se rapporter aux étapes, il va se rapporter à la deuxième partie de la douzième étape. Le bloc s'intitule « Mettre en pratique ses principes ». Parce que c'est bien beau, là, on a les étapes, puis on les a toutes vues. Puis quand, la dernière fois, là, on est rentré dans la sixième et la septième étape, là, on avait toutes vues de 1 jusqu'à 9, mais on avait déjà vu 10, 11, 12, là, pour ce qui est de l'entretien quotidien. Mais c'est pas tout de connaître les étapes, il faut aussi les mettre en pratique. Les mettre en pratique dans tous les domaines de notre vie. Puis ça, la mise en pratique dans tous les domaines de notre vie, ça ne veut pas dire qu'on passe toute la journée en disant « Bon, ben là, je viens de rencontrer un tel, il me tombe ses nerfs, ça me prend ma carte. » Non, ça, c'est pas ça, là. C'est pas ça. L'idée, c'est que, tranquillement, pas vite, dans A, on va développer quelque chose. On va développer de nouveaux traits de caractère. On va développer de nouvelles habitudes. La pratique des étapes, qu'est-ce que c'est? J'ai identifié 3 sujets. Okay? Le premier sujet, celui de ce soir, c'est la pratique de l'humilité. Pourquoi la pratique de l'humilité? Parce que, entre autres, les étapes vont nous amener à cette humilité-là. Ça va nous amener, au fur et à mesure qu'on va découvrir ces étapes-là, ça va nous amener à vouloir être humble, à être naturellement dans l'humilité. La semaine prochaine, on va parler d'un autre phénomène qui se produit. Parce que les étapes vont nous amener aussi à quoi? À agir avec discernement. Et ça, c'est nouveau pour un alcoolique. On en parlera plus abondamment la semaine prochaine, là. Mais ça va être un résultat direct de notre découverte des étapes et l'action avec discernement, ça va être une conséquence naturelle et normale de ce qu'on aura découvert dans les étapes qu'on aura faites. Et finalement, la dernière conférence va porter sur une chose bien, bien simple, parler. On apprend à parler, puis on apprend peut-être à parler d'une façon différente d'en haut. C'est pour ça que la conférence va s'intituler « Parlez-moi d'amour ». Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'humilité. Puis pourquoi on va se concentrer sur l'humilité? Parce que c'est le premier grand phénomène qui se produit. Puis avant même de savoir qu'on met les étapes en pratique dans tous les domaines de notre vie, là, ce qui va se produire, c'est qu'on va vivre cette situation d'humilité-là. Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est le contraire de quoi? C'est le contraire de notre orgueil. Et l'orgueil, c'est vraiment le plus gros de nos défauts. Bill en parle beaucoup de l'orgueil. On va l'écouter un petit peu.
L'orgueil est la principale source des difficultés humaines, le principal obstacle à tout progrès véritable. L'orgueil nous entraîne à imposer aux autres et à nous-mêmes des exigences qu'on ne saurait satisfaire sans dénaturer ou mal utiliser les instincts que Dieu nous a donnés. Quand notre vie n'a plus d'autres objectifs que de satisfaire notre instinct sexuel, notre besoin de sécurité ou notre ambition sociale, l'orgueil entre aussitôt en scène pour justifier tous nos excès. Dans toutes nos recherches du bonheur, la plupart du temps, bien intentionné, le handicap qui nous paralysait le plus était notre manque d'humilité. Il nous manquait le recul nécessaire pour accorder la priorité à la formation de notre caractère et aux valeurs spirituelles et pour reconnaître que les satisfactions matérielles ne sont pas le but de la vie.
C'est pas rien, cela, là. C'est-à-dire que notre orgueil, là, il est à l'origine de presque tous nos problèmes. Pourquoi? Ben, j'ai un égo démesuré, tout simplement. Comme la plupart des alcooliques, là, je rapporte tout à moi. Et l'orgueil, qu'est-ce que c'est? C'est pas la volonté de bien paraître. Ça n'a pas d'importance. OK? Ça, on va appeler ça de la fierté. C'est pas la volonté de vouloir être celui qui a des réalisations. Non. Même que AA va nous encourager dans ce sens-là. Je veux dire, plus on est capable de progresser et plus on est capable de s'améliorer et de réalisation, plus on va être encouragé dans cette voie-là. L'orgueil, c'est pas exactement ça. L'orgueil, si je me rapporte à moi, c'est de penser que j'étais le centre de l'univers. Bon, quand je dis ça, penser que j'étais le centre de l'univers, là, ça semble absolument impossible qu'un individu puisse se croire le centre de l'univers. Mais quand je regarde une chose, quand je regarde ma façon de vivre, ma façon d'être, c'est que je rapportais tout à moi. Vous pouviez avoir le problème que vous vouliez, l'opinion que vous vouliez, ça n'avait pas d'importance. Tout était centré vis-à-vis moi. Évidemment, le centre de l'univers, il n'est pas conscient de ce qui se passe en Chine, puis en Europe, et des trucs semblables, là. C'est au niveau de mon entourage. Tout est centré pour moi. Je ne vois pas autre chose que la réaction qui se passe vis-à-vis moi. Je rencontre une fille. Bon, quelque chose de bien classique. Je rencontre une fille, elle est jolie, j'ai le goût de la crouser, je la crouse, elle me trouve de son goût, et à partir de ce moment-là, cette fille-là, elle m'appartient. Elle devient ma chose. Je ne vois pas qu'elle peut avoir une personnalité. Alors forcément, comme je vois pas qu'elle peut avoir une personnalité, ben, tant qu'elle satisfait mes désirs, tout est bien correct. Mais à partir du moment où elle ne satisfait pas mes désirs, parce qu'elle peut vouloir se révolter, elle peut trouver ça pas drôle d'être une chose, là, tu sais. Puis elle va s'en apercevoir que dans le fond, je peux être d'une extrême gentillesse, des fleurs, du chocolat, n'importe quoi, là. À tabac, on s'en va au restaurant, puis tu vas l'avoir, la vie, ma belle, là. Mais elle va se rendre compte qu'elle n'existe que pour moi. Fait qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir affirmer sa personnalité. Puis quand elle va affirmer sa personnalité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir contrôler. Parce que mon orgueil me dit que je dois tout contrôler. Mais vraiment tout contrôler. Tout ce qui se passe doit se passer de la manière que je veux que ça se passe. Et j'ai cette sensation-là d'être non seulement capable de tout contrôler, mais de devoir tout contrôler. Parce que dans mon orgueil, j'ai toujours raison. Il n'y a rien que moi qui comprend, il n'y a rien que moi qui a raison, il n'y a rien que moi qui fait une bonne analyse. Alors, si je ne contrôle pas, ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe. La relation ne marchera pas. On n'aura pas ce qu'on veut. De toute façon, je ne serai pas heureux et tout ça. Je me dois de tout contrôler. Puis en plus de ça, comme j'ai toujours raison et que je suis capable de tout contrôler, ben j'en arrive à mépriser à peu près tout le monde. Parce que ça veut dire que la fille avec qui j'ai été en relation, qu'est-ce que je vais faire? Elle n'a pas raison. Alors, je la scrape aussitôt qu'elle s'oppose à moi. Ça peut être une personne qui a un caractère très, très fort et qui est capable de s'opposer à moi, ou ça peut être un autre caractère, genre tapis. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a vraiment pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est que moi, je l'élimine en tant qu'individu. Je la vois plus. C'est pas une personne avec qui je suis capable d'entrer en association. C'est une chose qu'on dit d'en haut, là. Le principal problème qu'on a, c'est qu'on n'a jamais été capable d'entretenir une véritable association avec une autre personne. C'est toujours à sens unique. Et ça, c'est pourquoi? Parce que en étant le centre de l'univers, bien, c'est évident que tout ce qui passe à ma proximité, j'ai l'obligation de contrôler ça. C'est ça l'affaire. Dans ce sens-là, ça devient quelque chose de terrible. Parce que c'est évident que mon entourage va se révolter contre ça. Puis des fois, c'est une révolte ouverte où on va me dire « va chier, Robert ». Puis d'autres fois, c'est pas de révolte ouverte, c'est tout simplement la personne du mot. Elle dit le même « va chier », sauf qu'elle dit pour elle-même, puis elle fait ses affaires sans s'occuper de moi. Puis c'est normal, parce que vous avez tous votre personnalité. Vous avez tous votre personnalité, puis vous avez tous votre libre arbitre, puis vous avez tous votre orgueil, parce que tout le monde a cet orgueil-là. L'orgueil, c'est pas l'apanage des seuls alcooliques, là. Pas en tout. Sauf que pour nous autres, l'orgueil, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire qu'on est en danger. Puis dans un sérieux danger. Mon orgueil m'a fait réaliser que si l'alcool saoulait les autres, elle ne me saoulerait pas moi. Un alcoolique, c'est quelqu'un qui pense qu'il va contrôler l'alcool. La plupart des êtres humains ont pris, la quasi-totalité des êtres humains ont pris un verre d'alcool ou de bière ou whatever à un moment donné dans leur vie. Et qu'est-ce qui arrive comme phénomène à tout ce monde-là? Il arrive qu'ils se sentent un peu partir. Ils sont grelots. T'sais? Et ils ont peur d'être grelots. Fait qu'ils vont faire attention, ils vont boire ses briques, ben non, ils ne boiront pas pantoute. Le monde, la plupart des gens boivent quand? Ils boivent à Noël, quand il y a un party de famille, un mariage, quelque chose de même. Puis encore, la plupart se promènent avec leur verre, puis ils passent la soirée. Ils ont pris 3 coupes de vin, puis c'est en masse, là. T'sais? Alors que moi, alcoolique, c'est pas de même. Moi, je bois. Moi, je sais boire. Moi, ça saoule, mais Christ, je me saoule. De toute façon, c'est pas grave, je contrôle. Je contrôle. L'orgueil. Moi, à cette île, je demeurais l'autre bord de la ville, puis à la sortie de la ville, il y avait un bar, c'était le bar Le Plaisir, puis j'étais là 3 soirs. Tu sais, du 5 à 7 jusqu'au Lascaux, c'est là que j'étais. T'sais. Et puis, quand je sortais, il y avait un char de flic qui était dans le stationnement. Puis là, les policiers, ils me voyaient sortir, puis ils me connaissaient, ils venaient me voir. Puis, Robert, t'es encore pacté à soir, là. Tu sais? Marche donc pour voir, là. Puis là, ils me faisaient marcher, puis j'étais très connu à cette île, là. Président de la Ligue des droits et libertés permanents. En tout cas, les flics, ils me connaissaient. Puis là, il disait, bon, ben, OK, là, t'es trop pacté pour chauffer, là. Embarque dans ton char, baisse les vitres, puis suis-nous. Puis là, il mettait les flancheurs. Il venait me reconduire à la maison de même, t'sais. Mais moi, j'étais fier de ça. J'ai jamais pensé que, à 2 heures du matin, le voisin qui s'en va pisser, là, puis qui voit des flancheurs, il regarde. T'sais? Puis là, il voit le permanent de la CEQ qui rentre en son domaine. Mais j'étais fier. J'étais fier parce que je l'avais tué l'affaire. Moi, je pouvais me saouler et il ne m'arrivait rien. C'est fou comme la merde, ça, là. Mais c'est comme ça que je suis frémé. Mon orgueil m'a fait penser que je contrôlais l'alcool. Mais le problème, c'est que c'est l'alcool qui me contrôlait. On a parlé de la première étape en masse, là. Mais le problème, c'est que l'alcool me contrôlait. Et ce que l'alcool a fait, c'est qu'elle a fini par m'humilier. Parce que l'humilité puis l'humiliation, c'est 2 choses, mais 2 choses complètement différentes. Ça, on va le voir un petit peu plus tard, là. Mais AA ne m'a jamais humilié. Me ramasser dans une salle de AA, c'est pas une humiliation de quelque façon que ce soit. AA m'a fait grandir. AA m'a reconnu pour ce que j'étais vraiment. On m'a pas dit en rentrant, « Ah, t'es plein de défauts, toi. » Non, non, c'est pas ça qu'on a fait. On m'a accepté pour ce que j'étais avec ma véritable grandeur. L'alcool, elle, m'a humilié. Elle m'a humilié d'à peu près toutes les façons possibles et impossibles. Mais moi, j'ai toujours voulu tout contrôler dans ma vie. L'alcool a contrôlé ma vie. Moi, je suis un gars de party. Je passe les 6 dernières années de ma consommation à être enfermé, à ne pas répondre au téléphone quand ça sonne, puis à refuser de voir quelque autre être humain. Je me cache. Tu sais, un gars orgueilleux qui se cache, c'est quelqu'un qui est humilié en maudit. Pourquoi? Parce qu'on m'a vu souvent. J'ai commis je ne sais pas combien de gaffes sous l'effet de l'alcool. J'ai envoyé chier je ne sais pas combien de monde. Puis j'étais à cette heure, j'étais rendu la honte de mon employeur. Là. J'en ai perdu un maudit paquet de job. Pourquoi? Parce que on me faisait plus confiance de quelque façon que ce soit. L'alcool avait réussi à détruire à peu près tout ce qui était correct à l'intérieur de moi. Alors, je suis humilié par l'alcool. Tous les soirs, je veux boire d'une façon raisonnable. Et tous les soirs, je finis blackout. Je ne suis pas capable de me mesurer à un verre rempli d'un liquide inerte. T'sais? Le verre plein de liquide, là, il ne me sautera pas dans la face. C'est pas vrai. J'étais incapable de ne pas boire. Puis, en plus d'être incapable de ne pas boire, j'étais incapable de boire. Puis là, là, ça va mal en Christi, tes affaires. J'étais incapable de boire parce que ça me saoulait, puis je vivais l'enfer. Même pendant que je buvais, c'était quelque chose de terrible. Là. Il y avait juste un moment, là, où, avant d'arriver au blackout, puis encore là, je me réveillais le lendemain, puis ce bout-là, je m'en souvenais plus, là. Puis j'avais peur de mourir, puis je prenais quand même ma bière, même si j'avais peur de mourir, parce que j'avais en quelque part pas le choix. Alors, incapable de boire, incapable de pas boire. Puis là, ben tu vis l'enfer. Tu vis l'enfer d'un bas fond. Je vivais le contraire de ce que je voulais faire. Moi, j'ai toujours voulu avoir une belle vie sociale. J'ai été enfermé dans la cuisine chez nous tout seul. Je n'avais plus de vie sociale, j'avais plus de vie pantoute. Alors, comment est-ce que je me considérais? J'avais une très, très piètre opinion de moi. Parce que quand tu te réveilles le matin, là, puis là, tu regardes la maison, elle est propre. Même ton verre de bière est dans le lave-vaisselle, puis tout ça. Puis tu sais que, Christ, c'est pas une situation qui est normale. Tu sais que la veille, tu t'es encore saoulé. Tu te rappelles même plus si tu as mangé. Je ne voulais pas ça. Alors, j'ai une très, très piètre opinion de moi-même. Et les autres, s'ils avaient connu mon alcoolisme, parce que j'ai eu la chance de quitter cette île où j'étais la honte de mon employeur pour me ramasser en Gaspésie, où là, ils ont pas trop su ce que je faisais. Puis rendu à Montréal, ben là, j'étais plus alcoolique pantoute, là. Sauf entre les quatre murs chez nous, là. Ben, j'avais aussi perdu la considération de tous les autres êtres humains. C'est ça, la conséquence de cet orgueil qui me poussait à penser que j'étais capable de tout contrôler, c'était ça la conséquence. Alors j'arrive dans A. J'arrive dans A et qu'est-ce qu'on me dit de faire? On me dit, admets que tu es impuissant devant l'alcool. On me dit pas. Admets que tu es alcoolique. Il y a une maudite différence. Tu sais, si on m'avait demandé d'admettre que j'étais alcoolique, ça aurait voulu dire qu'il fallait que j'admette ce que je considérais être un défaut. Rappelez-vous quand on a parlé du petit catéchisme puis de tout ça, là. On m'aurait demandé d'admettre que j'avais plein de défauts. Non, on me dit, admets que tu es impuissant devant l'alcool. Autrement dit, admets que vis-à-vis l'alcool, tu es faillible. Tu n'es pas capable de contrôler cette affaire-là. C'est ça qu'on me demande de faire. La première étape, qu'est-ce qu'elle a comme de génial? C'est justement que je conserve ma dignité. J'ai un défaut en quelque part, mais je ne perds pas le reste pour autant. Je ne suis pas le Soulon, je ne suis pas le lit de la société. Je suis juste impuissant devant l'alcool. C'est dur d'admettre son impuissance. C'est pas n'importe quoi. Il n'y a personne qui veut s'avouer impuissant. T'sais. S'avouer impuissant, à la limite, c'est quand c'est contre ma nature. T'sais, on ne dit pas ça, je suis impuissant. En tout cas, ça grouse bien mal. Non, j'ai toujours voulu être puissant. Mais là, on me dit, tu es impuissant devant l'alcool. Puis ça, j'ai pas le choix, quelque part, de l'admettre. Je me dois de l'admettre. La première étape, c'est celle qu'on doit faire à la perfection. Parce qu'à partir du moment où je conserve une réserve, que je dis, je suis peut-être impuissant devant l'alcool, mais dans 6 mois, vous allez voir, là, je vais être capable de recommencer, puis cette fois-là, je sais comment je suis, fait que je vais y aller tranquillement, je vais boire d'une façon raisonnable. Oh, ben non, je rêve en couleur, ils vont inventer une pilule, je vais prendre la pilule, je vais pouvoir boire autant de pieds que je veux, je vais atteindre mon plafond, puis je vais être bien. Non. À partir du moment où j'entretiens une illusion de quelque façon que ce soit, je vais retomber dans mon orgueil. L'orgueil qui dit que je suis ou que je vais être capable éventuellement de tout contrôler. Qu'est-ce que la première étape me demande? Admettre mon impuissance devant l'alcool. Mais pour admettre mon impuissance devant l'alcool, ça va exiger ce qu'on appelle la rigoureuse honnêteté. On voit ça dans notre méthode. On dit que ceux qui souffrent de graves désordres émotifs et mentaux sont capables de s'en sortir s'ils sont capables de rigoureuse honnêteté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette rigoureuse honnêteté-là? L'honnêteté absolue, non, on va oublier ça. On va oublier ça complètement. J'ai pas besoin de l'honnêteté absolue. L'honnêteté absolue, ça peut même être contre-productif. J'ai besoin de la rigoureuse honnêteté devant l'alcool. C'est à ce place-là que j'ai ce besoin-là. Parce que mon danger, c'est de rechuter, de retomber dans l'alcoolisme. C'est là que j'ai besoin de la rigoureuse honnêteté. Vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes défauts de caractère, j'ai besoin de la plus grande honnêteté possible. Mais c'est pas vrai que je vais l'avoir. Je vais toujours entretenir des illusions vis-à-vis de moi. Alors, essayer de quêter cette espèce d'absolu-là, là, bon, je veux dire, c'est condamné à être mal dans ma peau toute ma vie parce que je ne l'atteindrai jamais, ce niveau d'honnêteté parfait-là, au niveau de moi-même puis de mes défauts de caractère. Puis quant à l'honnêteté sociale, j'ai besoin de la plus grande honnêteté possible, mais encore là, il y a des nuances, là. Je vis en société. Si je me mets à voler, frauder, selon toute probabilité, ce qui va se produire, c'est que je vais souffrir de la peur de me faire pogner. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on est toujours rigoureusement honnête, là? Non. Tu sais, quand la fille arrive puis qu'elle te dit... Regarde ma belle petite robe que je me suis achetée aujourd'hui. Tu l'aimes-tu? Dis oui. Dis oui. Tu sais. Non, mais c'est, on fait pas mal au monde là, en disant non, la rigoureuse honnêteté m'impose de te dire que Chris, ça te va beau. T'es laide là-dedans, tu fais pique. Non, voyons donc. Tu sais. Il y a plein de situations où. L'honnêteté absolue, on oublie ça, là. Je suis avocat, moi, c'est bon. Rigoureusement honnête. Monsieur le juge, mon adversaire a oublié tel argument. On va oublier ça, là. S'il s'est fourré, il s'est fourré. C'est pas moi qui vais sortir du trou, là. T'sais. Je n'ai pas à vivre dans toutes les situations l'honnêteté la plus absolue. Mais l'important à comprendre, c'est quoi? C'est que dans au moins un domaine, qui est le domaine le plus important, ma raison d'être ici, je me dois d'être honnête. Et être honnête, ça veut dire quoi? Ça veut dire me reconnaître pour ce que je suis vraiment. Alors, quand j'ai dit à mon premier meeting, mon nom c'est Robert et je suis un alcoolique, qu'est-ce que j'ai fait? Pour la première fois de ma vie, je me suis décrit pour ce que j'étais vraiment. J'étais un alcoolique. Je me suis décrit tout simplement. J'ai donné ma véritable nature. Après ça, vous avez découvert que j'avais des défauts, puis que j'avais des qualités, puis que j'étais un être humain comme à peu près tout le monde. Puis vous l'avez découvert progressivement. Pourquoi vous avez découvert ça progressivement? C'est parce que le programme y est rentré progressivement. Et c'est... ça prend un certain temps avant que je découvre moi-même ma véritable nature dans plein de domaines. En fait, toutes les étapes, sans exception, toutes les étapes sont là et ont pour but le dégonflement de mon ego. Autrement dit, ça a pour but que je me présente pour ce que je suis vraiment. Mais pour me présenter, il faut toujours que je me connaisse. Et là, vraiment, toutes les étapes entrent en ligne de compte. On va écouter Bill là-dessus.
Atteindre une plus grande humilité est le principe de base de chacune des 12 étapes des AA. Car s'il n'est pas parvenu à un certain niveau d'humilité, aucun alcoolique ne peut demeurer le moindrement sobre. Les membres AA ont presque tous pu constater qu'à moins de cultiver cette précieuse qualité bien au-delà de ce qui est requis pour les garder tout simplement abstinents, ils ont encore peu de chances de devenir vraiment heureux. Sans humilité, leur vie serait peu utile et, dans l'adversité, ils ne pourraient compter sur les ressources de la foi qu'exigent les situations critiques.
Toutes nos étapes nous amènent à un plus grand niveau d'humilité. On vient de voir la première étape. On l'a vu plus longtemps qu'on va voir les autres, là, parce que c'est elle qui est le déclencheur de tout. Mais deuxième étape, on fait référence à quoi? À une puissance supérieure. Une puissance supérieure, supérieure à quoi? À moi, tout simplement. Ça me prend une force plus grande que la mienne. Troisième étape, on a décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu. Ça prend de l'humilité, surtout dans mon cas, parce que dans mon cas, l'athée que j'étais, il a fallu que je réalise que j'avais besoin de cette spiritualité-là. Parce que un athée, qu'est-ce que ça fait? Ça tue Dieu. Mais un athée, en tout cas dans mon cas, c'était ça, c'est quelqu'un qui non seulement tue Dieu, mais qui va aussi tuer la spiritualité. T'es pas capable de voir qu'en arrière d'un simple concept, il y avait une spiritualité, et j'ai tué ça. Et là, j'ai été obligé de reconnaître que j'avais besoin d'une spiritualité, que j'avais une vie spirituelle et que j'avais besoin de cette spiritualité-là. Quand on fait notre enfantin moral approfondi, ça demande une bonne dose d'humilité en maudit pour regarder toute sa vie, puis faire cette fameuse inventaire-là. Puis c'est pas l'inventaire de mes réussites là, que je fais, là. C'est pas les réussites qui m'ont poussé à boire. Ils m'ont aidé à fêter, mais ils m'ont pas poussé à boire. J'étais pas malheureux dans mes réussites. Avouer est de la cinquième étape. Ça veut dire prendre un autre être humain et en parler de ça. Tu sais, lui raconter. Ça a été de dire à une personne, voici ce que je suis, puis voici toutes mes faiblesses, puis voici c'est quoi mes défauts de caractère. c'est pas un exercice qui est facile, et c'est un exercice d'humilité. Après ça, sixième étape, nous lui avons humblement demandé. Toute la sixième étape, on l'a vu, tourne autour de cette notion d'humilité-là. La septième étape, dans le sixième, presque Dieu élimine, donc c'est Dieu, septième étape, humblement demandé, je viens de le dire. La huitième étape, là, il faut faire la liste de toutes les personnes qu'on a lésées, dans tous les cas où on a été dans notre tort, puis on a fait du tort aux autres, il faut faire cette liste-là. Et ça fait peur. C'est l'étape avec la neuvième qui fait le plus peur. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on se voit, mais cette fois-là, on se voit avec nos défauts. On a réparé nos torts, ben c'est la même chose. T'sais? C'est une étape qu'on fait reculons. Pourquoi? Parce qu'on se dit, le monde, de la manière qu'on s'est comporté avec eux autres, ils vont nous sacrer une claque sur la gueule, puis ils n'accepteront pas nos excuses, ils vont nous envoyer chier. C'est pas ça qui se passe, là. Les promesses sont là pour le démontrer. Mais c'est encore une fois un exercice d'humilité. Dixième étape, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On admet promptement nos torts. Promptement nos torts. Exercice d'humilité. Puis, dans onzième étape, on cherche à connaître la volonté de Dieu à notre égard et la force de s'y conformer. Encore une fois, on a placé une puissance supérieure. Volonté de Dieu. Il y a une volonté générale, que je sois heureux, joyeux, libre et utile, mais la volonté spécifique, ben, au lieu que ce soit ma capacité de réflexion, d'analyse, ma capacité de rationaliser qui va décider, il faut que je m'inspire de quelque chose qui est supérieur avec moi. Et dans la douzième étape, c'est pas juste d'accueillir le nouveau en s'en allant en avant, puis viens-t'en, je vais te donner un jeton. C'est d'essayer de transmettre le message. Même pas transmettre. C'est de l'orgueil de penser que je vais réussir à transmettre. Je vais énoncer ce que je pense de moi, c'est ce que j'ai dit au tout début. Alors, l'humilité, on voit là qu'à l'intérieur de toutes les étapes, vont viser à quoi? Au rabaissement de notre ego. Nous sommes dans l'alcoolique anonyme. Il n'y a pas juste des étapes. On l'a vu dans la deuxième conférence, il y avait toute l'organisation. Et c'est alcoolique anonyme. Qu'est-ce que l'anonymat? Tu sais, moi, je pense que l'anonymat caché, c'est peut-être pas c'est peut-être pas ce qu'on recherche vraiment. Quand on dit que l'anonymat, c'est la base spirituelle de nos traditions, bien, la base spirituelle, ça veut dire qu'il y a un principe spirituel à l'intérieur de l'anonymat. Se cacher pour pas que personne sache que je suis un alcoolique, dans le fond, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Parce que je veux me montrer dans ma perfection et non pas me montrer pour ce que je suis. Mais l'anonymat, pour moi, c'est d'être un parmi les autres. Moi, j'ai toujours voulu être en avant de tout le monde, là, puis expliquer ça à tout le monde. À peu près ce que je fais maintenant, tu sais. Pas très bon pour moi, cet exercice-là. Je vais vous dire, bien franchement, ce n'est pas très bon pour moi. Parce que ce que ça fait, c'est que ça va me ramener à cette sensation-là de tout comprendre, avoir raison, et tout ça. C'est pour ça que à chaque conférence, je fais toujours un espèce de petit laïus sur attention, là. Tout ce que je fais, là, je le fais parce que je suis un alcoolique. J'essaie de me ramener. Ce qui est très bon pour moi, cependant, c'est que demain soir, dans un meeting, je vais être assis parmi les autres. puis je vais écouter, puis je vais apprendre. Ça, c'est quelque chose de bon. Et pour moi, c'est ça le véritable sens de l'anonymat. Je fais des meetings de discussion. Un meeting de discussion, ça dure 45 minutes, j'en parle 3. Ben, 4, parce que j'ai une grande gueule, là, mais... Je parle à mon tour, puis le reste du temps, j'écoute. Le reste du temps, j'écoute. Puis c'est ça qui est important. Que je sois un alcoolique parmi les autres, sans plus. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que je sois confortable avec ma vie, que je me sente bien au milieu de mon environnement. C'est ça qui est le véritable objectif. L'humilité, qu'est-ce que c'est? Quand on ouvre un dictionnaire, là, puis dans mon groupe d'attache, un moment donné, on l'avait fait l'exercice, là, parce qu'on voulait savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Fait qu'on a dit dans un dictionnaire, ça doit être écrit, humilité, il doit avoir une définition. Et on a trouvé que c'était s'abaisser volontairement. Puis là, ça a fait ça a causé une espèce de levée de bouclier dans le groupe en disant, ben voyons donc, on n'est pas là pour s'abaisser, puis c'est pas correct de faire ça. Mais quand je repense à cette définition-là, définition du dictionnaire qui dit s'abaisser volontairement, quand je repense à cette définition-là, finalement, mon orgueil, c'est moi qui ressens. C'est pas vous autres. Vous autres, vous me voyez. Vous dites, il y a de l'allure là-dessus, il n'y a pas d'allure là-dessus. Mais mon orgueil, c'était quoi? C'était l'idée que je me faisais de moi-même. Et comme je me faisais une idée supérieure à ce que c'est vraiment, à ce moment-là, j'ai besoin d'humilité, c'est-à-dire que j'ai besoin d'abaisser la conception que je me fais de moi-même. Puis dans ce sens-là, le dictionnaire a parfaitement raison. Puis c'est pas l'humiliation qu'on m'a déjà fait vivre. Moi, quand j'étais petit gars, ben j'allais chez les Frères du Sacré-Cœur. Puis j'avais intérêt à baisser la tête. Puis une fois par année, on me mettait de l'encens à la tête. Un autre matin, ils m'ont sacré une claque sur la gueule. Puis on me rappelait que j'étais un pêcheur. Puis il fallait surtout pas que je conteste le frère. Parce que le frère, c'était l'autorité, il avait raison. Moi, j'étais un trou de cul à côté de ça, là. Donc, le frère, il m'obligeait à m'abaisser. Fait qu'il m'a mis à genoux en avant de la classe, je sais pas combien de fois, pour, justement, m'abaisser. On m'humiliait. Puis j'ai confondu cette pratique-là avec la pratique d'une saine humilité. Mais l'humilité, il faut que ça devienne une espèce de valeur recherchée. Il y a un endroit dans notre littérature où j'ai trouvé la définition de l'humilité. Puis étrangement, c'est dans le 12-12, au niveau de la cinquième étape, qu'on nous amène cette définition-là. Dans vos feuilles, il y a une erreur, c'est pas page 65, c'est page 68. C'est l'humilité consiste à reconnaître clairement qui nous sommes et ce que nous sommes et à chercher sincèrement ensuite à devenir ce que nous pourrions être. Wow! Ça, c'est une définition qui a de l'allure. Tu sais? Être vraiment ce que je suis. Vivre à ma pleine grandeur. Mais c'est pas vivre à ma pleine grandeur dans un environnement que je suis capable d'évoluer. C'est plus que ça. Parce que cette définition-là, elle dit « chercher sincèrement à devenir ce que nous pourrions être ». Fini l'idée là, de l'humilité, puis on n'a plus d'ambition. J'ai des qualités. Et c'est mon devoir envers moi-même de développer ces qualités-là. Et je suis capable de développer ces qualités-là. Et AA va m'inciter à développer les qualités que je peux avoir. D'une part, vivre à mon niveau. Pas penser que je suis capable de faire à peu près n'importe quoi, puis chier dans mes culottes chaque fois que j'essaie de le faire. Vivre à mon niveau. Puis si j'ai une faiblesse, c'est de dire, « Ouais, j'ai une faiblesse. » Puis je connais pas tout, fait que je pose des questions, puis je cherche. Puis quand on me demande de faire des choses qui sont au-dessus de mes forces, je vais dire non, je regrette. Là, pense de moi ce que tu voudras, je m'en fous. Là. Moi, là, j'arrête à ce niveau-là. Mais ça veut pas dire que je peux pas ouvrir un livre, étudier pour essayer d'en faire plus. Ça veut pas dire qu'à un moment donné, je dois pas m'armer de courage pour essayer de me dépasser. T'sais? Mais dans la mesure où j'ai la conscience d'être capable de pouvoir de faire ça. C'est ça l'humilité selon les AA. T'sais? L'humilité selon les AA, c'est reconnaître ce que je suis au sein de mon environnement. C'est avoir une vie qui est une vie beaucoup plus paisible, sereine. C'est de vivre dans le calme au lieu de chercher la tempête. C'est de vivre d'une façon un peu plus raisonnable. Il y a un très beau texte sur l'humilité. Puis ce très beau texte-là, on le retrouve à la page 222, puis il est dans vos feuilles. C'est ce qu'on appelle la définition de l'humilité, là, qui était sur le bureau du Dr Bob, un de nos deux fondateurs. Et je vais demander à Patricia de clore la conférence en nous en faisant la lecture, qui décrit vraiment le bien-être qu'on peut ressentir à vivre dans l'humilité. Patricia?
L'humilité est une perpétuelle tranquillité du cœur. C'est n'avoir aucun problème. C'est ne jamais être fâché, vexé, irrité ou blessé. C'est ne m'étonner de rien qui puisse m'arriver. C'est ne pas sentir les attaques des autres. C'est rester calme quand personne ne me louange. Et si je suis blâmé ou méprisé, c'est trouver en moi un lieu béni où je puisse me retirer, refermer la porte, m'agenouiller devant mon Père en secret et être en paix, comme dans une mer profonde de calme, quand tout autour de moi semble trouble. »